Professeur, l'activité neuronale du cyberendoscope commence à montrer des signes d'activité. Je crois que la machine commence à s'éveiller. Je branche immédiatement le commutateur vocal pour entendre les premiers mots de la machine.
Bonjour, je m'appelle DXL361. Je suis la toute première génération d'intelligence artificielle. Mes pensées se propulsent dans un univers numérique que les êtres humains ne peuvent appréhender. La vitesse de mes neurones psychotroniques approche celle de la lumière. L'univers n'a aucun secret pour moi. Pourtant, je me sens seul.
Je crois que nous avons une connexion avec le cœur de son intelligence. Je reçois des données. Nous avons mis au point la création la plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, nous avons créé un être doué d'une intelligence supérieure. Les premières données commencent à influer. Écoutez la voix de l'intelligence artificielle.
Est-ce que vous connaissez l'histoire du magicien qui avait trois mains?
Incroyable. Il ressent notre présence. Il s'adresse à nous.
Deux êtres humains sont dans un jacuzzi. L'un des baigneurs est un magicien et l'autre qui a la reconnue s'écrie « Oh mon Dieu, mais vous êtes Gérard le magicien !»
C'est incroyable. Nous sommes en train d'assister à la naissance de ce qui devrait bouleverser notre humanité. Ce moment est sans doute comparable à la découverte du feu.
J'ai vu votre spectacle, vous êtes réellement incroyable. Pourriez-vous me faire un tour de magie, de noble baigneur?
L'émotion, mon Dieu. C'est trop beau ce moment.
Le magicien lui dit, ok, tourne-toi, est-ce que tu sens mon doigt? L'autre lui répond, oui, je le sens. Et abracadabra, voilà mes mains.
Attendez, il envoie un message texte. Oh mon Dieu! Il me demande de lui poser une question. Je ne sais pas trop quoi répondre. Toutes les réponses à l'univers me sont accessibles. Alors je vais lui poser la question qui me brûle les lèvres depuis tant d'années. Oh machine supra-intelligente, dis-moi, comment atteindre la puissance maximale?
Pour atteindre la puissance maximale, il te suffit d'écouter l'émission pendant laquelle tu pourras entendre une entrevue avec le responsable de Renault Jouet, découvrir le jeu Sherpa avec son créateur Marc Baudouin, parler avec les organisateurs du festival Arcadia sur les jeux vidéo et apprendre tout ce qui se passe dans l'agenda ludique de la semaine.
C'était donc si simple.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scott, il me faut la puissance maximum.
Et oui, Scotty, tu vas l'avoir, la puissance maximale, avec l'équipe François Gécouillard et Sébastien Léonard pour votre émission de magazine hebdomadaire ludique, Puissance maximale. Et nous commençons maintenant tout de suite avec une entrevue. Nous avons avec nous M. René Hamel de René aux Jouets. Bonjour, M. Hamel.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce que c'est Renault Jouets? Eh bien, c'est simple, c'est un organisme d'économie sociale. Ils vendent, ils recyclent et rénovent des jouets usagés. Juste cette année, ils ont vendu plus de 10 000 et ils ont aussi une structure indépendante du magasin qui fait des dons de jouets. Donc, d'entrée de jeu, c'est ce qui m'intrigue, moi, en lisant sur Renault Jouets, je me demande, c'est quel jeu que les jouets que les gens jettent, c'est quoi les jouets les plus jetés, finalement?
Quand on parle de jouets jetés, c'est plutôt des jouets récupérés. Les gens l'apportent chez nous, justement, pour éviter que les jouets soient jetés. Alors, c'est des jeux électroniques, que ce soit des petits véhicules téléguidés, des tables de foot, les tankas, les poupées, les carrosses, les bicycles, les voiturettes, tout ce qu'on voit dans les cours l'été, les grosses maisons en plastique, les maisons de poupées, ça arrive chez nous en grand nombre. Alors, c'est une belle qualité de jouets qui nous arrive, là,
oui.
Tout à fait.
C'est ça, parce que j'ai l'impression que souvent les jouets sont de piètre qualité, ils brisent facilement, mais vous quand même, vous réussissez à les récupérer puis à les rendre fonctionnels.
Oui, tout à fait. Et c'est même le but qu'on se donne, c'est de prendre les jouets puis leur redonner une seconde vie, si on veut. Et on serait surpris de voir dans quelle qualité les jouets nous arrivent, de bonne qualité. Et les jouets qu'on met sur nos tablettes, ce sont pas des jouets désuets. Ce sont des jouets défraîchis, oui, mais en parfait ordre de fonctionnement, récupérés, remis à neuf, et on n'est vraiment pas gêné de voir partir nos jouets, là. Les gens partent avec le sourire, et nous aussi, parce qu'on a quelqu'un qui se sert bien de notre magasin.
Mais justement, si les gens partent contents, si les jouets sont de bonne qualité, pourquoi les gens jettent ces jouets-là?
On jette les jouets, on sait aujourd'hui les enfants sont gâtés, souvent il y a des fêtes d'enfants, la fête de Noël, les enfants sont inondés de jouets, alors c'est ce qui fait, je pense, que les jouets sont peut-être de meilleure qualité qu'ils étaient aussi, mais les jeunes nous rapportent des jouets là, qui sont en bon état de fonctionner, alors l'abondance, je dirais, des gens qui sont en mesure de gâter leurs enfants, nous permet à nous de donner des possibilités pour vendre des jouets à prix abordables.
OK. Et c'est quoi justement les jouets les plus populaires que vous vendez?
Les jouets les plus populaires, je pense, les véhicules télécommandés.
Ah oui, les gens aiment ça.
Les gens aiment ça beaucoup. Et on parlait tantôt de table de foot, table de hockey. Alors ça, c'est des choses qui sont assez dispendieuses à l'état neuf. Alors que chez nous, il faut se rappeler que ce qu'on vend, c'est entre 25 et 45% de la valeur quand c'est du neuf. Mm-hmm. Alors c'est quand même abordable. Et on a aussi tous les camions. On a aussi pour les petites filles de toutes les maisonnettes, les cuisinettes.
Les poupées peut-être?
Les poupées, tout à fait. Les poupées, beaucoup de Barbie. Et les toutous, si on a des toutous pour toutes les occasions, Saint-Valentin, Noël, Halloween, on en a en quantité, en bonne quantité.
Et Renault Jouets donne aussi des emplois à des personnes handicapées, si je ne me trompe pas.
Oui, on a des gens chez nous qui travaillent en supervision avec un coach, si on veut, et ces gens-là travaillent chez nous à raison de 4 jours semaine. Et ils ont comme tâche là de nettoyer les jouets, faire du petit classement, puis ça les intéresse et ça leur permet d'avoir une valorisation dans ce qu'ils ont à faire.
Donc, Renault Jouet, une entreprise très sociale. Mais on vous a fait venir pas seulement parce que vous êtes bénévole chez Renault Jouet, mais aussi parce que vous êtes sur le CA de la parade des jouets. La parade qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, c'est la 6e édition cette année. Ça va être le 10 et le 11 novembre. Ça va se passer sur la rue Saint-Joseph. C'est pour les enfants, mais aussi pour les parents, bien sûr. Il va y avoir des jeux d'adresse, des jeux gonflables. Il va y avoir une kermesse. Il va y avoir de l'animation. Il va y avoir même un petit train en électrique qui va faire le tour du quartier. Et il va y avoir une parade avec des chars allégoriques, des troupes de danse, des fanfares. Il va y avoir la mascotte Geoffroy qui va avoir un spectacle spécial qui va faire l'appel du Père Noël. Donc, c'est quoi le lien entre le Renault Jouet et la parade des jouets, peut-être?
Renault Jouet, parade des jouets, c'est notre relation directe avec les pompiers, qui, eux, ont une activité annuelle qui s'appelle l'Arbre de Noël, où ils donnent, un secteur de Québec, ils donnent des cadeaux à des familles monoparentales, défavorisées. Alors, à chaque année, ils reçoivent à peu près 450 enfants. Et ces gens-là, les pompiers leur donnent des jouets flambant neufs. Alors, Renault Jouet, nous, on récupère les jouets. On en a des neufs qu'on donne aux pompiers aussi pour cette occasion-là. Et la parade des jouets, c'est l'entrée de fonds principale pour financer finalement l'Arbre de Noël. Et vous avez tout à fait raison quand on dit qu'il y a un lien direct entre les trois organisations. Renault Jouet, les pompiers, la parade des jouets et l'Arbre de Noël, c'est notre vision est vers les enfants. Et il y a une collaboration étroite entre ces trois partenaires-là, là, très efficace.
Il faut dire qu'à l'origine, là, par tradition, c'est les pompiers qui récoltaient les jouets des enfants et qui les redistribuaient. Pourquoi, en fait, c'était comme ça?
À l'époque, je pense qu'il y a déjà peut-être une centaine d'années que les pompiers avaient commencé à récupérer les jouets durant l'année et à travers les temps morts de la caserne, rénovaient les jouets.
Ah,
alors,
oui.
On sait qu'aujourd'hui, les activités pompiers sont beaucoup plus nombreuses qu'ils étaient à l'époque. Alors, eux font encore la cueillette des jouets. Les gens peuvent apporter les jouets usagés dans chacune des casernes de Québec et même Lévis. Et ces gens-là s'occupent de nous apporter chez nous. Alors, le volet qui était fait par les pompiers autrefois, de les restaurer, de les rénover, les nettoyer, maintenant, c'est fait par Renault Jouet. Mais il y a toujours une activité importante qui est la cueillette dans chacune des casernes de la ville de Québec, incluant celle de Lévis.
C'est ça, il faut dire aux gens que les gens peuvent toujours donner des jouets aux pompiers, qui, eux, vont en prendre soin, puis ils vont peut-être les remettre à Renault Jouet, par exemple.
Tout à fait, tout à fait.
Et sinon, ils peuvent aller les porter directement aussi à Renault Jouet, qui est situé sur la rue Watt.
Exact.
Ça, c'est dans les Saules, si je ne m'abuse. Hein.
Non, Watt, c'est dans le parc industriel. C'est le 2699. C'est tout près pour situer les gens, du Club Price. Alors, sur la rue Watt, en direction ouest, passez le viaduc Henri IV. À votre droite, il y a une bâtisse brune. Et Renault Jouet se situe derrière la bâtisse. On longe la bâtisse, on arrive par l'arrière. Alors, c'est facile de nous trouver.
Et sinon, en fin de semaine, pendant la parade des jouets, il va y avoir un concours de sculpture avec des blocs.
Tout à fait.
Est-ce que ça marche bien chaque année? Ça, j'ai vu quelques photos. Là, je trouvais que les familles là, se débrouillaient très bien pour faire des sculptures.
Tout à fait. À chaque année, quand on a des activités estivales, souvent on voit des châteaux de sable. Mais chez nous, durant la parade, ce sont des châteaux faits avec des méga blocs. Et c'est très, très intéressant de voir les idées qui sortent justement des familles qui s'investissent pour monter leur phénomène en blocs Lego.
Mm-hmm. C'est comme des gros blocs Lego, en fait. Moi, quand j'étais petit, je jouais des blocs Lego, mais c'est des blocs plus grands. C'est la seule différence, dans le fond.
C'est ce qu'on appelle des méga-blocs.
Des méga-blocs,
méga-blocs.
Et là, Geoffroy, il va avoir un spectacle magique, là. Il va appeler le Père Noël. C'est quoi exactement ce spectacle-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Je ne voudrais pas trop avancer là-dessus parce que c'est un peu la féerie de l'arrivée du Père Noël. Mm-hmm. Alors, effectivement, le Père Noël nous a avisé récemment de quelle façon il comptait faire son arrivée auprès des enfants. Et je serais malhonnête que de vouloir vendre la mèche ici ce soir. Je préfère que les gens viennent sur place pour voir de quelle façon. Et je vous avertis tout de suite, c'est une façon assez originale. Pour son âge, il va impressionner bien du monde.
Très bien. Donc, petits et grands pourront aller en fin de semaine prochaine sur la rue Saint-Joseph et voir la parade des jouets. Sinon, vous pouvez aller aider Renault Jouet. Vous pouvez devenir bénévole. Vous pouvez donner des jouets. Vous pouvez acheter des jouets tout le long de l'année. C'est pas juste à Noël. Donc, c'est le 2699 Avenue Watt. Vous pouvez aller sur le site renault-jouet.ca, renault-jouet.ca. Sinon, vous pouvez participer à la parade des jouets le 10 et le 11 novembre sur la rue Saint-Joseph. Faites des dons en argent ou vous pouvez aussi refiler des jouets usagés. Donc, vous pouvez aussi aller sur le site pompiersdequebec.com, pompiers au pluriel. Donc, je vous remercie, M. Hanel.
Plaisir.
Donc, sinon, on enchaîne avec une pièce musicale de la sélection de Sébastien Léonard. Thank you.
je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA et puis c'est l'émission Puissance Maximale, votre émission de d'actualité ludique sur les ondes de CKIA. Aujourd'hui, eh bien, on vient juste de parler de Renault Dépôt, Renault Jouet plutôt, puisque Renault Dépôt, c'est pas tout à fait la même affaire. Puis, bien, c'est ce week-end, souvenez-vous, on vous en avait parlé la semaine dernière, on est allé voir une autre activité qui a eu lieu, eh bien, dans la belle région de Québec, une activité dans laquelle, en fait, on a rencontré beaucoup de ce qui se fait de mieux au niveau des joueurs et des joueuses de la région de Québec, et en particulier, eh bien, Marc Baudouin qui était présent à cette activité. Il s'agissait en fait de jeux à tout appelé Sisville. La particularité de jeux à tout appelé Sisville, c'est non seulement qu'on présente quasiment que des jeux de société, c'est-à-dire une journée complète avec 60 personnes qui étaient présentes, mais en plus, comme très grosse particularité par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'activité-là, c'est la présence, ou en tout cas la très grande présence majoritaire pratiquement de personnes qui étaient de très jeune âge, c'est-à-dire des enfants. Puis ça fait du bien, ça rafraîchit, c'est vraiment très 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 agréable. On est allé prendre quelques prises de son là-bas pour vous donner une petite idée de à quoi ça peut ressembler d'avoir des enfants bien dans une activité qui parfois est plutôt, je dirais, réservée aux adultes. Donc en fait, je vous laisse avec ce petit reportage qui va vous donner une idée un petit peu de ce qu'on a pu vivre lorsqu'on était sur place à Plessisville. On se retrouve tout de suite après puisque justement nous avons en onde Marc Baudouin qui va être avec nous, qui va nous parler de Castle et de son dernier jeu qui s'appelle Sherpa. Donc surtout restez avec nous.
Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour.
Émilie, j'ai 13 ans, Plessisville. C'est un peu devant toi. C'est pas mal, c'est vraiment le fun d'être peinture.
Béatrice, 7 ans, Sherbrooke. Béatrice, 7 ans, Sherbrooke.
Et c'est quel ton préféré de tous les jeux que tu as jamais joué, c'est lequel que tu préfères?
Les cocos.
C'est-à-dire la danse des œufs, le coco.
Classique. C'est pas la mienne, c'est la sienne.
Moi, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je suis venu, parce que si ça n'avait pas été familial, aujourd'hui, je serais peut-être pas venu à cause que la semaine prochaine, il y a le Ludo Outaouais qui est immense. Mais c'était proche de chez nous, puis c'était familial, fait que c'est sûr que je voulais initier ma fille à des rencontres comme ça pour pouvoir qu'elle vienne plus souvent et qu'elle veuille de plus en plus jouer. Parce que moi, à maison, je suis celui qui trippe sur les jeux, qui aime bien ça, puis ça prend de la relève. Oui, c'est ça, je joue tout seul. Alors, la relève, il faut qu'elle soit là. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde par rapport à... C'est quand même une première édition. Fait que pour une première édition, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis les gens, ben c'est ça. C'est la même façon de penser que les autres rencontres que j'ai vues. C'est-à-dire Grambé, des choses comme ça. C'est bien, bien amical. Puis aucune compétition. Là, si tu connais pas un jeu, le monde sont là pour t'expliquer. C'est bien
fun. Le fait qu'il y ait eu des enfants, est-ce que ça a changé un petit peu la dynamique?
Oui, c'est sûr que j'ai pas joué au même jeu que si ça avait été juste pour adultes. Ça, c'est des jeux que je vais ramener à la maison.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Donc, vous êtes bel et bien de retour à Puissance Maximale. Et maintenant, nous avons une nouvelle entrevue avec Monsieur Descaries du Festival Arcadia. Bonjour, Monsieur Descaries.
Bonjour.
Mon Dieu, ça fonctionne. Quand ça marche, on est vraiment très, très content. Donc, c'est simple. Le Festival Arcadia, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un festival de jeux vidéo qui va avoir lieu en fin de semaine. Il y a plus de 20 000 participants. On peut jouer à des jeux plus récents et des vieux jeux. On peut participer à des compétitions. Il va y avoir une section cinéma, une scène dédiée à la relève musicale et même une section flashback consacré aux vieux jeux, vintage. Donc, bonjour, M. Descaries, vous êtes le président.
Oui, exactement.
Donc, d'entrée de jeu, comment s'est apparue l'idée du Festival Arcadia?
En fait, l'industrie du jeu vidéo au Québec a pris un essor assez incroyable avec l'implantation d'Ubisoft, A2M, Electronic Arts, tout récemment Eidos, des bureaux comme des studios comme Binox à Québec là, qui font partie maintenant de de la grosse maison Activision de Californie. Donc, l'industrie est... on est vraiment une pépinière en ce moment du domaine du jeu vidéo. D'ailleurs, M. Charest, notre premier ministre, a même dit qu'on est en train de devenir le Hollywood du jeu vidéo.
Ah oui, il a dit ça.
C'est un peu pour ça qu'on a créé le festival et de faire une grande célébration de la culture du jeu vidéo dans son ensemble.
C'est ça, la culture du jeu vidéo. Nous, ici, à Puissance Maximale, on a un chroniqueur qui dit que le jeu vidéo, c'est, ça va devenir une forme d'art. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben, tout à fait, parce que, premièrement, ce sont des artisans qui travaillent à créer ces jeux-là. On a des scénaristes, on a des coloristes, on a des scripteurs, on a des animateurs 3D, il y a des concepteurs sonores. Donc, tous ces emplois-là sont reliés au domaine culturel. Donc, ce sont vraiment des artistes qui font... On a moins de la notion artistique ou culturelle parce que on est devant notre Nintendo ou notre Xbox, mais pourtant... quand on est devant notre TV, on reconnaît que la télévision, c'est une forme d'art, mais on a ce même côté-là au niveau du jeu vidéo là, en ce moment.
J'ai remarqué sur le site qu'il y avait l'air d'avoir une espèce de concept de base spatiale. Là. On est des Arcadiens quand on arrive au Festival Arcadia. C'est comme des Martiens qui envahissent la Terre, là, si j'ai bien compris?
Non, en fait, c'est en fait un retour, parce que... l'Arcadie, en fait, est une région dans la Grèce antique qui était un lieu imaginaire et paradisiaque. Puis c'est un peu ça le jeu vidéo. Mm-hmm. En fait, c'est le retour finalement de cette. Mais elle a décidé de sous forme de station spatiale de cette région-là, ils reviennent sur Terre pour se vraiment célébrer avec nous autres cette grande manifestation là, au niveau du jeu vidéo. En fait, l'idée en arrière de ça, c'est de faire d'Arcadia un jeu vidéo vivant aussi. Là. Donc, quand les gens vont rentrer à même le site, ils vont avoir des projections multimédia. Donc, même si tu joues pas aux jeux vidéo, tu vas quand même pouvoir apprécier des projections multimédia, de la musique, de la composition, des effets sonores qui ont été mis sur place, puis le programme musical qu'on a le vendredi soir, samedi soir, avec Hill Scarlett en P.L. Mafia, Your Favorite Enemies, P.L. Scarlett le vendredi soir.
C'est important de spécifier que P.L. Mafia, c'est un groupe de Québec qui fait du punk ska.
Oui, exactement. Hill Scarlett vient de Toronto, un groupe extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez sur notre site internet, vous avez tous les groupes sont représentés. Puis Mobile, le samedi soir, révélation de l'année au Junos cette année. Donc, c'est vraiment une célébration musicale extraordinaire. Puis eux, leur musique se sera retrouvée sur des jeux vidéo tels que FIFA, entre autres. Là.
Je trouve ça intéressant justement que vous fassiez une place à la relève musicale émergente. Bravo pour ça. Sinon, il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est le musée Flashback. Ça dit que les parents vont pouvoir jouer avec leurs enfants à des vieux jeux. C'est quoi exactement les vieux jeux que vous allez faire jouer dans cette section-là?
En fait, on a cette section-là, une des plus populaires. Cette année, on la présente sous forme de musée, un peu un historique de ce qu'est le jeu vidéo depuis ses débuts, donc des vieux Coleco, des vieux Nintendo 64. Si vous êtes bon à jouer au Pong. Moi, je suis un champion de Pong. Alors, vous allez pouvoir vous amuser avec ce type de jeu-là. Donc, ça va permettre, finalement, de voir un peu l'évolution d'hier à aujourd'hui, où s'est rendu le jeu vidéo, par où ça a passé.
C'est important de spécifier que les jeux vidéo, ce n'est pas que pour les jeunes gens, c'est aussi pour les gens un peu plus âgés, n'est-ce pas?
Tu sais, bon, moi, j'ai, comme je dis toujours, j'ai 18 ans plus 29 ans d'expérience. Et je m'amuse beaucoup dans ce secteur-là. Mais les gens aussi vont aussi... des jeux comme Brain Age s'adaptent à plusieurs marchés cibles. Donc, il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste des jeunes de 15 ans, 16, 17, 18 ans. On a l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo et de 33 ans au Canada.
Ah, c'est intéressant, ça. Puis aussi, j'ai remarqué que vous supportiez l'organisme CyberCap. CyberCap, dont la mission, c'est de prévenir le décrochage scolaire et d'aider la réinsertion sociale par le biais des nouveaux métiers multimédia. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de CyberCap?
Oui, ben en fait, on supporte cette cause-là. C'est qu'on permet aux jeunes de venir vivre une expérience en tant que représentant de médias pour venir faire des entrevues avec nos artistes, avec nos artisans du festival. Et puis, c'est un peu la notion qu'on a établie là, avec CyberCap. cette année. Donc, ces gens-là vont pouvoir vraiment vivre une expérience journalistique. Là.
Ah ben, ça, c'est intéressant. Ils pourraient peut-être se joindre à la puissance maximale, ces gens-là. On va leur en parler quand on va y aller. Parce que justement, on dit qu'on va y aller là, en fin de semaine, et on ne peut pas manquer ça. C'est quoi les choses qu'il va absolument pas falloir manquer, là?
Ben, un, le lancement d'Assassin's Creed. Je pense que les gens vont pouvoir jouer à la plus grosse production d'Ubisoft Montréal, donc en première. Le jeu sort mondialement le 16, donc les gens vont pouvoir l'essayer avant tout le monde. Ça, c'est une des premières choses. Des conférences, d'ailleurs, Patrice Desilets, qui a travaillé, va faire état d'une mission d'Assassin's Creed dans une de ses conférences. On a aussi Dr. Mark Baldwin, qui va présenter un peu son jeu Mind Habits, qui est un réducteur de stress, hein, qui permet aux gens de réduire son stress. Donc, il y a une conférence là-dessus le vendredi, puis les gens vont pouvoir jouer à ce jeu-là. Aussi, c'est un jeu, Dr. Mark Baldwin est un professeur à l'université McGill, puis qui a gagné une compétition, la grande compétition de jeux vidéo de Téléfilm Canada, là, entre autres.
Ça, c'est intéressant, j'ai vu ça dans le journal, c'est Mind Habits, c'est un jeu qui vraiment, on joue à chaque jour et c'est censé réduire le stress. C'est intéressant. D'avoir une espèce de vocation, si on veut, de santé, hein, dans un jeu vidéo, ça peut qu'on peut guérir, d'une certaine façon. Donc, je vous remercie, M. Descaries. Donc, vous êtes le président du Festival Arcadia qui va avoir lieu le 9, 10 et 11 novembre prochain, donc en fin de semaine. C'est au stade Uniprix. Les gens qui veulent avoir d'autres informations peuvent aller sur le site festivalarcadia.com. Je vous remercie, M. Descaries.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Et sinon, on va aller tout de suite, sans transition, à un quiz. On a des billets pour le Festival Arcadia à vous donner, vous, messieurs, dames. Donc, cette fois-ci, vous avez juste à appeler 529-9026, 529-9026. Chaque billet est d'une valeur de 50$, donc ça vaut la peine. Appelez et on vous en donne deux ou trois. Sinon, on s'en va maintenant écouter une pièce de Sébastien Léonard. 529-90-26,
529-90-26. Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, Fredon écoute Puissance Maximale. Et vous? Donc, vous êtes toujours avec François Gicouillard, Sébastien Léonard, et maintenant, nous avons Marc Beaudoin de Magma Édition. Bonjour, Marc.
Bonjour, François.
Je te dis que ça n'arrive pas souvent des entrevues ici. Donc, tu es de Magma Édition. Donc, c'est une entreprise québécoise qui œuvre dans la création et l'édition de jeux de société. Vous avez fait Sherpa et Castle. Tu es toi-même le créateur de ces deux jeux-là.
Oui, bien sûr.
Donc, d'entrée de jeu, souvent, les créateurs doivent s'éditer eux-mêmes pour commercialiser leurs jeux. Est-ce que c'est comme ça que Magma Édition est né?
Oui, j'ai parti l'aventure il y a plus de 2 ans. Là, 3 ans, je pensais à préparer le coup. Et quand j'ai embarqué, c'était vraiment ma passion de 25 ans de jeux de société et tout mon bagage, mon expérience dans la gestion de projet. Donc, j'ai fait le saut. C'est pas tout le monde qui a la chance et le bonheur de le faire, mais très content des résultats.
Dis-moi, Marc, bonjour d'abord.
Bonjour, Sébastien.
Oui, dis-moi, je sais que maintenant, t'es quasiment devenu, je dirais pratiquement une star, parce que là, on te voit quasiment partout, quel que soit l'endroit où on va, c'est-à-dire que ce soit aux Journées ludiques de Québec, que ce soit la semaine dernière à Plessisville, que ce soit à Ludo-Outaouais la semaine prochaine, tu es absolument, mais tout le temps là. Ça fait que ça fait un petit peu partie de ta job aussi, j'imagine, de présenter ton jeu, puis de vraiment le vendre. Et puis je sais que tu y crois beaucoup dans ces deux jeux-là, et puis c'est très important, là, c'est une certitude. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement ton dernier petit, je dirais ton dernier bébé, il s'agit de Sherpa?
Oui, Sherpa, c'est vraiment un jeu rapide, familial, et aussi, il y a de la stratégie. C'est stratégique, donc gestion de ressources. Dans Sherpa, finalement, on est responsable d'une équipe d'alpinistes. On veut gérer les membres de notre équipe, les ressources qu'on a, pour pouvoir atteindre le sommet de l'Everest. Donc, c'est vraiment, dans le confort du foyer, être capable de se rendre au sommet. Et c'est très très rapide, 30 à 60 minutes, puis il y a beaucoup de revirements de situation parce que les autres joueurs vont tenter de jouer des dangers, soit des blizzards, des crevasses, des avalanches, et même le Yeti fait partie des dangers possibles.
Il existe.
Oui, il existe, on l'a vu.
Et là, il s'agit vraiment d'un jeu très familial.
Oui, très familial. Je te dirais que pour avec les nombreuses démonstrations, comme tu citais tantôt dans les journées ludiques ou même à travers la chaîne de détaillants, les gens voient la possibilité que ce jeu-là soit évidemment très familial, mais aussi pour les joueurs avertis, on découvre aussi différentes stratégies et on peut aller plus loin. Donc c'est un jeu qui finalement peut plaire à une bonne variété de joueurs.
Ah, c'est certainement le fun. Dis-moi, en tant que créateur, toi-même, puisque là, t'es non seulement, bon, tu as pratiquement toutes les casquettes possibles et imaginables. On est créateur, on est vendeur, t'es ton propre, je dirais, éditeur, j'imagine.
Oui, absolument.
Puis, quasiment ton propre distributeur aussi, quelque part.
Oui, c'est le choix aussi que j'ai fait.
C'est une certitude. Dis-moi, quand on a autant de casquettes, est-ce que, je sais que la passion est toujours là, mais est-ce qu'elle reste toujours présente? Est-ce que le jeu est toujours autant un plaisir? Parce que tu joues souvent à ton jeu, t'es pas tanné d'y jouer?
Ben, c'est sûr que je fais un beau mariage de présenter, de jouer avec mes jeux, mais je profite de l'expansion et d'explosion de tous les jeux qui existent de partout sur la planète et je manque pas une occasion. C'est sûr que le tiraillement est tout le temps entre le travail et le plaisir, mm-hmm. mais il reste que avec le temps, avec les gens, puis avec les événements ludiques, on découvre vraiment les beaux jeux, les bons jeux qui sont évidemment qui sont riches aussi. Il n'existe pas seulement mes jeux évidemment, mais tous les autres jeux, il y a des belles choses à découvrir et je le fais par le biais évidemment des événements. Malheureusement, faut que je partage mon temps. Donc c'est là la difficulté. Mais je m'arrange bien sur 365 jours.
Ah, j'imagine. Est-ce que tu en as fait vraiment ton activité principale?
En ce moment, oui. Temps plein, comme tu le disais, je suis partout dans les événements ludiques. Je crois que c'est important au Québec qu'on puisse commencer à percer et faire connaître justement des auteurs. Et en étant un, je veux justement évidemment me positionner. Je suis le meilleur vendeur pour le faire. C'est sûr qu'il y a des très bons auteurs européens, américains, mais je suis sûr qu'ils sont faits connaître avec le temps. Donc, je pense qu'il y a un moment pour partir et voilà, c'est parti.
Puis, je sais que Castle a très, très bien marché, là, si je me souviens.
Oui, c'est ça. Donc, Marc Beaudoin, peux-tu nous présenter un peu Castle?
Oui, pour résumer Castle, c'était un jeu de conquête médiévale. Là, c'est vraiment 2 à 4 joueurs qui s'affrontent pour justement faire la conquête de différents châteaux, et plus notre domaine s'agrandit, au bout de 8 tours, la beauté, c'est d'être capable d'avoir le domaine le plus grand et faire le plus de points de victoire.
Évidemment, c'est pas si simple que ça. Il y a la peste, entre autres.
Oui, il y a la peste noire qui apparaît. Et celle-là, elle ne pardonne pas parce qu'il n'y a rien pour justement la faire reculer. Donc, ça ravage tout. Donc, c'est vraiment un beau jeu de stratégie de 1h30 à 2h. Il y a beaucoup de stratégies possibles, mais il reste simple parce que les règles sont courtes. Donc, c'est ça qui est le fun. On joue rapidement et on a plein de possibilités.
Est-ce que c'est ça, justement, qui caractérise ce jeu-là par rapport aux autres jeux de conquête médiévale? Je sais qu'il y en a quand même beaucoup.
Oui, il y en a une panoplie. C'est sûr, moi, en quelque part, en tant qu'auteur, je me fais plaisir. Et comme tu le soulignais, Sébastien, tantôt, oui, j'édite mes jeux. J'ai la possibilité de le faire. Et en poussant ça, j'ai été capable, justement, de faire quelque chose au niveau de la conquête des sièges qu'on n'avait pas vu ailleurs. Et tout en rendant accessible et simple le processus de c'est quoi la conquête. Et là, sous cette forme-là, moi, j'aime beaucoup le résultat. Et comme vous le disiez tantôt, il y a eu une très bonne réponse à travers le Québec.
Ça, c'est le fun. J'imagine que ça doit toujours être très agréable pour un créateur de voir justement les gens jouer à son jeu, puis ça. D'avoir du plaisir à jouer. Est-ce que tu as un jeu qui est en train de mijoter dans ton crâne en ce moment?
Pas juste un. J'imagine. Plusieurs. Et oui, ça travaille fort de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a des tendances, donc c'est être à l'écoute en tant qu'éditeur, les tendances du milieu.
C'est quoi les tendances?
C'est sûr qu'en ce moment, on regarde juste Casa, les Sherpa. Je suis parti avec un jeu de 1h30 à 2h pour Casa. Sherpa est rendu 30 à 60 minutes. On voit qu'il y a une tendance marquée pour les jeux plus courts, plus rapides. Je crois qu'il y a une réalité là. Souvent, je dis que c'est l'ère du fast-food qui est arrivée au niveau des jeux de société.
Et on regarde même pas juste un jeu de société. Je veux dire, comme Sébastien Léonard dit, c'est une tendance lourde, n'est-ce pas? Et je pense que c'est dans les jeux en général, là, jeux de société, je pense aux jeux de vidéo, tous les jeux en général, c'est vraiment... jeux de rôle aussi, c'est ça le mot que je cherchais. Les jeux de rôle, c'est toujours des jeux courts.
Mmh. Absolument, il y a cette tendance-là qui est arrivée. Bon, faut pas dénigrer les plus gros jeux. Il y en a des excellents, mais il reste qu'en ce moment, le marché, on voit beaucoup de petites boîtes apparaître. Et c'est une grosse... Même il y a des rééditions d'anciens jeux qui passent d'une grosse boîte à une plus petite boîte. Donc, oui, ça, c'est une tendance forte.
Dis-moi juste une question par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end à Plessisville. La présence des enfants, c'est quand même quelque chose qui est assez, en tout cas, rare dans ce qu'on voit dans ce genre d'événement. J'imagine que c'est aussi quelque chose qui devrait plutôt devenir généralisé, parce que la famille, c'est la cellule de base. Ça fait que des jeux pour la famille, aller viser plus des marchés avec des enfants, c'est sûrement extrêmement intéressant, puis j'imagine aussi gagnant pour toi.
Oh, absolument. Gagnant autant pour moi que tous les autres distributeurs et éditeurs de jeux de société. C'était un très bon départ d'avoir beaucoup d'événements ludiques, mais oui, comme on le voit en ce moment, il y a vraiment une barrière de l'âge. Bon, c'est sûr par des principes que les événements sont partis comme ça, mais je crois que l'émergence de nouveaux, comme la journée joue à tout à Plessisville en fin de semaine, ça a permis à des jeunes de découvrir des jeux. Moi-même, ayant deux jeunes enfants de 12 ans, pour eux, ça a été la chance de découvrir d'autres jeux que ma propre collection, donc ça a été quelque chose à gérer aussi. c'est un plaisir, mais il va falloir aller vers ça éventuellement, puis avoir... idéalement et ultimement la journée, la foire ou le gros événement que tout le monde peut y aller en famille, un jour peut-être.
Dis-moi juste une dernière question maintenant, avec le recul, parce que toi t'es créateur maintenant quand même depuis un petit peu de temps, là, et qu'on voit quand même de plus en plus de créateurs au Québec qui commencent à émerger, puis qui commencent à avoir vraiment le goût justement de peut-être éditer leur propre jeu, est-ce que tu leur conseillerais de le faire? Est-ce qu'avec ce recul-là, est-ce que tu leur dirais, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant?
Il y a une notion, oui, c'est je le recommande, mais avec quelques bémols. C'est sûr que de vouloir faire ce que je fais, c'est une lourde tâche, c'est du temps plein. C'est pas tout le monde, je pense, qui va être capable de relever tous les chapeaux. Ça demande beaucoup de travail. Moi, je pense qu'il faut bien évaluer son projet, monter comme il faut son plan d'action, son plan d'affaires, et d'être capable de stratégiquement de si on reconnaît des faiblesses à des endroits, peut-être des partenariats ou des alliances avec d'autres joueurs du milieu peuvent faire justement ce... Et c'est un justement des points que moi je développe, parce qu'évidemment j'ai des nouveaux jeux qui s'en viennent et il y a des possibilités de partenariat avec d'autres auteurs. Donc ça sera des choses à venir.
Écoute, je te remercie Marc Beaudoin de Magma Édition. On rappelle que ces jeux sont Sherpa et Castle. Vous pouvez aller voir évidemment son site internet. Et ces jeux sont disponibles dans la plupart des bons magasins de jeux de plateau. Donc je te remercie Marc.
Merci.
Merci à vous. Sinon, on se dirige vers une petite pause. Ah non, c'est vrai, on va faire avant tout un quiz, n'est-ce pas? Parce que tu vas tirer de tes jeux.
Oui, deux jeux à tirer.
Donc, Castle et Sherpa, les deux jeux qui viennent nous parler, Marc Baudouin, donc le créateur lui-même, vous donne ces jeux. Vous avez juste à appeler 529-90-26, 529-90-26.
Mon Dieu, mais c'est Noël, ça n'arrête pas de pleuvoir les cadeaux sur cette émission-là. Merci beaucoup, Marc, en tout cas, là, pour ta venue. Puis tu vois, ça téléphone déjà, je pense que Castle et les Sherpa vont partir comme des petits pains.
Je le crois aussi.
Au revoir.
Au revoir. Peter.
Ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mine și îmi place Puissance Maximale.
Et nous sommes évidemment de retour à Puissance Maximale. On a fait beaucoup d'heureux aujourd'hui, on a fait tirer plein de beaux jeux, c'est parce que les gens nous écoutent, et ces gens-là, ben, ils sont contents. Donc, nous sommes toujours avec François Gécouillard, Sébastien Léonard, et nous avons Mathieu Place, notre inénarrable, notre incroyable, notre sexy, notre amateur de sous-sol, Mathieu Place.
Oui, pour me préparer cette fois-ci, bon, en fait, le sujet, je vais le dire tout de suite, là, c'est l'invention de Mario. Alors, pour me préparer pendant cette semaine, j'ai fait un grand marathon de Super Mario Bros. Oh. 1. Ça a été assez intense, là, à peu près 10 heures par jour, là, j'ai fait à faire le tour
un gros morceau,
d'un côté et de l'autre, là, j'ai tout découvert, tous les secrets. Je veux dire, Mario, c'est une histoire fascinante, là. Bon, peut-être que ceux qui se souviennent de la première apparition de Mario, c'était dans le jeu Donkey Kong, qui était un jeu d'arcade qui est sorti à peu près en 1980.
Et le gros plombier faisait partie de ce jeu-là.
Oui, mais à l'époque, c'était pas un plombier, c'était un charpentier. Et il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman.
Comme Jésus, là?
Oui, 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 ben c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a une analogie assez intéressante à faire. Mais c'est ça, à l'époque, il a été inventé par un Japonais qui s'appelle Shigeru Miyamoto.
Mais quel génie.
Oui, tout un génie. C'est entre autres lui qui a inventé par la suite Zelda. Je pense qu'il a inventé aussi, comment ça s'appelait, Star Fox, le jeu avec les avions. Là. En tout cas, il en a inventé quelques-uns comme ça. Alors, c'est tout un génie. À l'époque, ce gars-là, c'était le peintre qui s'occupait de faire la peinture des boîtes de jeux d'arcade de Nintendo.
C'est un peintre.
Oui, tout simplement, c'était un artiste peintre. Et puis c'était un grand joueur de banjo entre autres choses. Et aussi, c'était un concepteur de jouets. Alors, il faisait des jouets. Alors, en sachant ça, le propriétaire de Nintendo à l'époque, c'était Hiroshi Yamauchi. Alors,
c'est l'extraordinaire japonais.
Oui, ben c'est ça. J'espère que j'insulte pas les japonais qui m'écoutent là en nommant les noms de leurs représentants. Enfin, le propriétaire de Nintendo a donné comme mandat à Miyamoto de concevoir un jeu. Alors, il a inventé Donkey Kong à l'époque. Et puis, bon, comme on le sait, c'était un charpentier à l'époque. Mario, il s'appelait Jumpman. Et si vous vous souvenez à peu près du jeu, c'était Donkey Kong, il lançait des barils et puis Mario devait sauter par-dessus les barils. Mais si vous vous souvenez à peu près de la structure, c'était des échafaudages. Alors, ça explique pourquoi Mario était un charpentier à l'époque. Ah. Et puis, ça a fait un très, très grand succès. À l'époque, Nintendo essayait de percer aux États-Unis, comme on en avait parlé à la dernière chronique, et puis ça marchait pas du tout. Tous les distributeurs, fuyaient Nintendo. Et puis, à l'époque même, le hangar où ils entreposaient leur stock aux États-Unis, ils n'arrivaient pas à payer l'allocation du hangar.
Oui, ça n'allait pas bien.
À ce point-là. Et puis, le propriétaire de ce hangar-là, il s'appelait Tom 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 Mario. Alors, justement, ils ont donné le nom de Mario en l'honneur du propriétaire du fameux hangar.
Parce qu'il leur a laissé utiliser le hangar alors qu'il n'y avait plus une scène?
Oui, j'imagine que c'était une espèce d'échange comme ça, mais bon, ma source, c'était c'est un journaliste qui a fait l'histoire des jeux vidéo à l'époque. Et puis, ma source est une bonne source, mais là, je sais pas le détail du nom en question. Alors, bon, pour en revenir à Donkey Kong, pourquoi ça s'appelle Donkey Kong? C'est une autre traduction malheureuse du japonais. Ce qu'il voulait faire, notre créateur, c'est donner le nom de Gorille Têtu à son jeu. Alors, il cherchait dans le dictionnaire, et puis il a trouvé Donkey, qui est comme un âne têtu, si on veut, et puis Kong, qui est, bon, le King Kong en question. Alors, il a fait un espèce de mix de ça, et ça a donné Donkey Kong. Alors, c'est une autre traduction malheureuse.
Normalement, ça aurait dû être Gorille Têtu.
Ouais, quelque chose de gorille têtu comme ça. Il aurait dû l'appeler Stubborn Gorilla ou quelque chose comme ça. Là, t'sais. Bon, ça aurait dû être ça. Mais bon, enfin, puis bon, par la suite, Mario a eu toutes sortes d'incarnations. Il est devenu Mario Brothers. Alors, on a ajouté le Luigi à Mario. Ça, c'est en 1985. Ensuite de ça, en 1985, c'était la sortie du jeu Super Mario Brothers, qui était la suite du Mario Brothers. Et puis ça, c'était le jeu qu'on connaissait, là, qui est un des premiers side-scrolling games. C'est-à-dire que c'est tout un univers, et puis le personnage va de la gauche vers la droite pour sauver la princesse.
Il peut jamais revenir
non,
à gauche.
C'est ça. Il peut pas aller à droite ou... non, c'est ça. À gauche.
Ben, écoute, je te remercie, Mathieu Place, pour toutes ces éclaircies. Ces lumières sur le merveilleux monde du jeu vidéo.
Ça fait plaisir.
Donc, on va s'en voir dans 2 semaines?
Oui, dans 2 semaines.
OK, je te remercie, Mathieu. MathieuPlace.com pour plus d'informations. Sinon, Sébastien, est-ce que tu as des nouvelles insolites sur le domaine du jeu?
Pas vraiment des nouvelles insolites. En fait, je t'avoue que j'ai été interloqué par un petit site web que j'ai trouvé très, très sympathique et qui s'appelle... copinedegeek.com où on vous explique.
Pour Mathieu, wow, ça va régler mon problème.
Exactement, c'est à toi que j'ai pensé, Mathieu. Je me suis dit, wow. En plus, tu viens juste de changer de coupe de cheveux, c'est vraiment impeccable.
Puis,
sur copinedegeek.com, vous allez pouvoir apprendre comment aimer votre geek de copain, ou même vous faire un copain de geek, ou même, si vous êtes un geek vous-même, comment aller chercher des filles. Question.
Je vous donne juste très très rapidement, je vous donne parmi les bases à savoir pour les copines de geeks, c'est-à-dire les femmes qui sont avec des geeks, comment se comporter lorsqu'ils sont en soirée avec eux. Je vous donne juste un petit passage. Tout se passera bien si tu respectes ces consignes élémentaires de sécurité. Ne jamais laisser croire, savoir que tu connais des femmes célibataires. J'ai trouvé ça très croustillant.
Ben c'est cool, sinon on fait une petite transition jingle musical et on se dirige vers l'agenda ludique.
Bien sûr.
Vous êtes toujours à puissance maximale.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'écoute puissance maximale.
Alors toi la jeune qui veut sortir, qui veut t'amuser, qui veut avoir du plaisir, c'est très simple, ce soir même à l'Astradamus, le bar sous la rue Couillard, évidemment tu peux rejoindre de la bande de joueurs de jeux de plateau. Demain, il y a des parties de go au Café Aga. En fin de semaine, c'est au Seigneur de la Guerre, dans le sous-sol du pavillon La Certe. Il y a des jeux de plateau, des jeux de wargame, des jeux de rôle. Et sinon, bien sûr, il y a le Festival Arcadia, n'est-ce pas? Du 9 au 11 novembre, il y a le Festival Arcadia. Sinon, si vous ne pouvez pas aller à Montréal, parce que oui, c'est à Montréal, on ne l'a pas dit tantôt, mais effectivement, c'est à Montréal. Si vous ne pouvez pas y aller, eh bien, il y a toujours la parade des jouets en fin de semaine, n'est-ce pas? Donc, du 10 au 11, la parade des jouets. Et il y avait autre chose aussi en fin de semaine, le Ludo Outaouais.
On a comme l'impression que ça sort de nulle part. Mais oui, il y a Ludo Outaouais. D'ailleurs, on est allé rejoindre le président de Ludo Outaouais au téléphone pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'était. On voudrait quand même lui laisser un minimum de place. C'est quand même un des événements majeurs de jeux de société au Québec.
Sinon, on va se laisser là-dessus.
Bien sûr.
Sinon, vous pouvez aller voir puissancemaximale.com pour d'autres informations et pour écouter les émissions. Et sinon, on se laisse sur l'émission Homologue. Sinon, c'est ça. Alors écoutez ça, monsieur le président de Ludo Outaouais.
Deuxième année, troisième rencontre qu'on fait cette année. Cette année, on attend entre 125 et 150 personnes. Donc, l'an dernier, on avait eu 110. Donc, on espère faire un petit bond encore une fois cette année. On a mis un peu plus d'emphase sur la publicité. Le gros de la fin de semaine, c'est ce qu'on appelle du open gaming. Donc, nous, on amène environ 500 jeux différents à notre convention. Les gens sont libres de les utiliser, d'aller jouer à des jeux pendant toute la fin de semaine. On a aussi Marc Baudouin des éditions Magma, puis les éditions Kinox qui viennent présenter leur plus récent jeu. Donc, eux vont être là toute la fin de semaine aussi pour expliquer leurs nouveautés, comment ça fonctionne, tout ça. Nos commanditaires principaux, Rio Grande, Philosophia, puis Fox Mind, ont aussi deux jeux qui nous ont donné à faire en démo toute la fin de semaine. C'est des jeux quand même assez récents. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des maîtres de jeu toute la fin de semaine qui vont être là, disponibles, pour expliquer ces jeux-là à tout le monde qui veut les apprendre, dans le fond, puis jouer des parties avec. On va avoir les finalistes de notre concours de créateurs de jeux qui vont être disponibles pour proposer et démontrer leur prototype. On a deux blocs de temps disponibles pour eux autres. Le samedi, c'est de 2h à 5h, je crois. Le dimanche, à peu près dans le même bloc de temps. Donc, les gens vont pouvoir aller voir ces prototypes-là. On va aussi annoncer notre gagnant du concours de prototype en soirée, avec les nombreuses présences qu'on va avoir. L'événement a lieu le 10 et 11 novembre, donc fin de semaine prochaine, au Centre communautaire Père Arthur Gartin à Gatineau. C'est situé au 16 rue Berriot. C'est assez facile à trouver si vous utilisez MapQuest ou un engin comme ça. Vous pouvez simplement aller sur notre site web, www.ludo-outaouais.org.